Bien, donc j'ai essayé d'appliquer la consigne à la lettre hier soir, hein, vers 17h, et donc de reprendre exactement tout ce que vous avez dit à propos de l'écriture. J'ai respecté les couleurs, donc pour moi bleu c'est la colonne de gauche et vert c'est la colonne de droite, et je vais répondre à la fois par rapport à l'écriture, hein, ce que vous en avez dit, et par rapport à la formation, que ce soit la formation des enseignants ou que ce soit ici l'action de formation. Voici comment donc j'ai procédé, je les ai relevés, je les ai un petit peu ordonnés. Par exemple ici, j'ai regroupé ces quatre remarques. Écriture, ça conforte, mais il y a 30 ans que ça existe. Et éléments qui nous confortent dans nos convictions, l'écriture spontanée, l'explicitation. Et puis de l'autre côté, donc du côté des choses à réfléchir encore, écrire, convaincre que c'est faisable, travail dans la durée, et nous savions tout ce que nous avons entendu, mais de manière empirique et fractionnée. Ça, la dernière formule porte sur l'ensemble de ce que vous avez entendu. Là, j'y vois le principe, alors ce que Patrick appelle l'utile, hein, et pour moi, c'est un principe fondamental qui est celui de l'assurance ou de la réassurance. Ce n'est pas parce que ça existe depuis 30 ans que les choses se passent et se passent bien. Et là, je viens de discuter avec une collègue qui vient me dire, bah voilà, il y a une vingtaine d'années à Chambéry, voilà ce que nous faisions, et ça s'est perdu. Et on voit bien d'ailleurs que nous n'avons pas d'études un peu systématiques sur les pratiques d'écriture en grande section à l'école maternelle. Donc ça relativise. Alors ça permet de se réassurer, de dire, bon, effectivement, on voit à peu près d'où on vient depuis Ferrero jusqu'à aujourd'hui, on voit bien par où on est passé, Ouzoulias, Zerbatopoudou, Fijalkov, et on arrive à ce que je vous ai dit, mais pour autant, pouvoir affirmer que les pratiques existent, qu'elles sont effectives et qu'elles sont efficaces, on n'est pas tout à fait rendu. Donc principe de réassurance et principe de relance en formation. Deuxième série de remarques, bien sûr portant sur la norme. Et alors là, vous voyez qu'on est sur la colonne de droite. Hein. Et j'ai eu toute une série de questions. À quel moment doit-on poser la norme? Difficulté pour le formateur de se positionner entre les différents niveaux de travaux. Hein. Est-ce que dire qu'ils peuvent écrire alors que ce n'est pas le cas, ils ne savent pas écrire, n'est pas une question de rapport à la norme? Les enfants vont être en échec. L'enfant ne va-t-il pas croire qu'il peut écrire? Et puis j'ai mis entre parenthèses sans normes, parce que le mot n'y était pas, en tout cas hier soir. Quel lien avec le cycle 2, écrire comme on pense versus écriture normée, quels outils? Sur ces questions, on est dans l'acceptabilité. Et ma réponse, c'est d'utiliser, alors c'est un terme qui est aujourd'hui employé dans les neurosciences, en neuropédagogie, si vous suivez un peu les travaux d'Olivier Houdet, on est bien sur cette question. C'est-à-dire que la flexibilité de l'enseignant, c'est sa capacité à connaître son répertoire cognitif pour des situations et des actions qu'il mène et qu'il sait mener, et à prendre le risque de se déplacer parce que, pour mieux analyser les situations, on a besoin peut-être de penser autrement, voire même de sortir, thinking out of the box, indépendamment de l'accent, hein, on est d'accord. Mais voyez l'idée, je quitte mon champ habituel de perception et de cognition, j'essaie de me décentrer, j'essaie de voir ce qui se passe. Je vous cite son ouvrage, hein, je le mets en tout cas, apprendre à résister, ce qu'il appelle la résistance cognitive. Je pense qu'on chacun à notre niveau, on a besoin d'évaluer un peu notre capacité à résister cognitivement, c'est-à-dire à inhiber nos façons de voir et de penser dans des situations que nous croyons des situations stabilisées. Et je vous ferai remarquer, je les ai soulignés, deux verbes ont été utilisés, pouvoir d'un côté, savoir de l'autre, alors que j'ai essayé de vous dire hier que le plus important était l'autre verbe, le verbe qui manque et dont je reparlerai quelques diapos plus loin, qui est le verbe vouloir. C'est-à-dire avant de se poser la question du savoir et du pouvoir écrire du côté des enfants, déjà observer ceux qui veulent. Hein, c'est ce que j'appelle l'avouement. Hein, ils y vont, la démarche, ils initient. Hein, maîtresse, j'ai écrit. Hein, rappelez-vous ce que j'ai essayé de vous dire. Et là, je dis pas que c'est du neuf, mais en tout cas, c'est à interroger avec nos conceptions actuelles des processus d'apprentissage et de développement. Puisqu'il est question d'Ouzoulias, je sais bien, hein, et Dieu sait si je respecte tout ce qu'a écrit André Ouzoulias, mais sa position par rapport à la norme, hein, il est hors de question de laisser des enfants dans des situations de production d'écrit où la norme n'apparaîtrait pas, j'y souscris tout à fait. Mais en même temps, j'ai retrouvé cette citation, vous savez, les cahiers pédagogiques avaient reproduit des textes. Bon, mais plus fondamentalement, il n'y a pas de meilleur moyen de favoriser la réussite de tous les élèves que de les faire écrire fréquemment en GS et OCP, puis tout au long de l'école primaire. Vous voyez bien, le positionnement, c'est bien un continuum de pratiques qu'on va lier ensuite à l'observation et qu'on va lier enfin à l'évaluation positive. La trajectoire, je crois qu'elle est là. Et donc pour moi, et ça c'est ma définition, l'école maternelle serait donc bien une école qui enseigne, mais qui enseigne la découverte et la construction progressive du rapport à la norme. Je n'exclus pas la norme, mais elle s'inscrit dans une logique qui est d'abord la logique de l'enfant, que je contrôle, que j'assume comme étant une logique tâtonnante, on va y venir, mais suffisamment constructive et constructrice pour que je puisse adhérer. Donc il y a bien de la norme, mais dans une logique de construction progressive, et donc d'accompagnement. Deuxième autre point important, oui, un des groupes a éprouvé le besoin de dire finalement, y a-t-il des différences, quelles différences fait-on entre écriture spontanée, inventée et tâtonnée? Bon, si on prend les choses de manière très simple, on a des situations d'écriture, qu'elles soient inventées, ou tâtonner, de toute façon, c'est la formule actuelle du programme, les élèves cessent à écrire des mots. Essai d'écriture de mots. Alors, le petit bémol que je mettrai, c'est pourquoi s'est-on arrêté à l'unité linguistique mots? Alors bien sûr, les recherches disent que c'est l'unité linguistique préférentielle, d'accord, y compris au CP, mais cela ne signifie en rien qu'il faille considérer qu'on ne peut pas aller au-delà du mot. D'accord, il suffit de faire un imagier avec un déterminant pour que déjà on dépasse l'unité mot et on rentre dans une unité qui est grammaticalement intéressante et qui, du point de vue de l'apprentissage de l'écriture, est décisive. Un, une, les, des, on voit bien tout ce qu'il y a derrière. Après, effectivement, ils le font de manière soit spontanée, ce que dit le programme, c'est-à-dire que la démarche est personnelle et la sollicitation, elle n'y est pas. En tout cas, il n'y a pas de sollicitation explicite, ou alors elle est accompagnée. Et j'ai bien aimé cette idée d'enlever peut-être dans notre vocabulaire récurrent, hein, c'est ça aussi la flexibilité, le mot atelier, pour aller vers le terme qu'a utilisé donc Madame Collin, qui est le thème d'activité dirigée, et de ne plus mettre cette espèce d'étendard atelier qui est terriblement accroché à la maternelle. Dans les deux cas, que l'enfant y aille de manière spontanée, ou qu'il y soit amené parce qu'il y a un accompagnement, une sollicitation, de toute façon, il faut que ce soit une tâche problème, qui demande aux enfants, tout seul et ensemble, vous l'avez compris, hein, puisque hier j'ai bien dit, on écrit, on apprend à écrire, et sans doute à comprendre ensemble, avant de comprendre aussi tout seul. On s'écoute, on regarde ce qu'on produit. Donc à élaborer des hypothèses sur le fonctionnement du système et sur les stratégies d'encodage. Et quand je dis fonctionnement du système, ça va bien au-delà de la graphophonologie. Hein, j'incorpore tout ce qui est production d'écrit. Il m'intéresse aussi, puisqu'on a cité, je remonte, vous voyez, 30 ans, ça fait même plus de 30 ans, à peu près, oui. Je remonte au congrès d'Auch, à propos d'écriture inventée. Moi, ce que j'aimais bien, c'est cette formule de Jean-Pierre Jaffré sur le potentiel d'invention des enfants. Alors, il parlait en 98 de l'invention par rapport à la phonographie, vous voyez, ça rejoint bien la position d'Ozoulias, mais la deuxième partie est encore plus intéressante. Pour qu'il y ait apprentissage de l'écriture, il faut qu'il y ait influence conjuguée de l'enseignement, le mot est en tête, et ça renvoie à tout ce qu'a dit Sylvie sur, bon, on enseigne, et Madame Collet a dit pareil, on enseigne, d'accord, mais aussi on explore l'écrit et on donne à l'enfant du temps d'exploration de l'écrit à son propre compte, pour lui-même. Independent writing, comme disent les anglo-saxons. On continue. L'importance du projet d'élève, dites-vous, dans la colonne de gauche, dans les activités d'écriture, et puis, de l'autre côté, questionnant l'écrit, pour entrer l'écrit dans l'activité, quelle est la motivation? Vous voyez, ça rejoint un peu l'idée aussi de tout à l'heure, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on est en sécurité? J'ai l'impression très souvent que les enfants sont plus en sécurité que l'enseignant. C'est-à-dire, autant eux s'y prêtent volontiers, ne voient aucun danger à s'essayer. Pour une raison simple, c'est que s'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. D'accord, je ne veux pas écrire, très bien, pas de problème. Soit tu restes avec nous, à côté de nous, soit tu vas vaquer à tes occupations. D'accord, ça peut être ça aussi la démarche. Mais par contre, l'enseignant, lui, il est porteur de toutes ses craintes. Et je pense qu'il les transmet. D'accord, c'est-à-dire que s'il ne se sent pas suffisamment lui-même en sécurité pour aller du côté de l'écriture, alors ça va bloquer. Et les outils que nous avions à la fin des années 90-2000, bon, ces outils qui étaient des outils efficaces, que ce soit du côté du geste graphique ou du côté, j'emploie encore le terme là, puisqu'il est inscrit hein, du côté de l'atelier d'écriture dirigée, ces outils-là, bien, quelque part, ils n'ont pas pris. Donc la question reste pour la formation, pourquoi n'ont-ils pas pris ? Mauvais formateur, mauvais transmetteur, mauvaise situation, on peut discuter. J'en profite, et c'est là que je retrouve mes deux verbes, de citer un bouquin de Philippe Carré, qui m'avait intéressé en 2005, là, vers un nouveau rapport au savoir, lorsqu'il parle d'apprenance, et lui, il dit bien, c'est un couple, hein, c'est pouvoir, savoir, vouloir. D'accord, hein, voyez, c'est là, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'avouement, c'est bien le point de départ. Et donc, on se cale sur les enfants, avant de dire, on va imposer aux enfants des activités d'écriture. Définition de ce qu'il appelle l'apprenance, ensemble des dispositions favorables à l'acte d'apprendre dans toutes les situations. Il y a de l'informel et il y a du formalisé. Il y a du non enseigné et il y a de l'enseigné. Il y a du directif, de l'injonctif, c'est lui l'a redit encore, et puis quelque chose qui ne l'est pas ou qui peut ne pas l'être. Donc qu'elle soit formelle ou non, qu'elle soit expérientielle, produit d'une expérience, écriture spontanée, ou qu'elle soit didactisée, très précisément inscrite dans une progression, qu'elle soit autodirigée par l'enfant qui décide de sa façon de faire ou bien dirigée avec l'enseignant ou un maître, qu'elle soit intentionnelle ou fortuite. J'aime bien cette définition, elle ouvre des portes, elle invite à cette flexibilité. Enfin, si la motivation, parce que là j'ai des doutes vu la formulation, la motivation de l'enfant, donc c'est lui qui décide, hein, vous l'invitez à, mais c'est lui qui décide. Par contre, s'il faut regarder du point de vue de l'enseignant, la motivation, eh ben, elle est professionnelle, elle est quelque part dépendante de programmes qui nous disent et redisent qu'il faut penser l'articulation lecture-écriture. C'est longtemps resté un vœu pieux, surtout dans la logique, on apprend d'abord à lire pour après apprendre à écrire, donc cette logique-là, il faut la casser, on apprend à lire et à écrire dans des situations qui sont concomitantes ou suffisamment séparées pour que chacune soit travaillée par rapport aux compétences qu'elle demande, et en même temps suffisamment liées ou intégrées pour qu'on puisse dire, tiens, si on écrivait au beau milieu du scénario de Sylvie. D'accord ? Qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce qu'on y gagnerait ? Ou, comme dirait Patrick immédiatement, qu'est-ce qu'on y perdrait ? Du temps, il faut rajouter des séances, ça va devenir infernal. Bon, Sylvie, déjà, c'est lourd, mais si on rajoute en plus, si on rajoute en plus de l'écriture, on s'en sort plus. Je continue. J'ai eu toute une série, donc, sur les situations. Bien évidemment, situations pratiques d'écriture, inventées, quelle mise en œuvre. Comment passer, intéressant, d'une observation étayée des essais d'écriture des enfants à des séances structurées. Vous voyez la perfidie de la question. D'accord ? C'est-à-dire, vous êtes bien gentil avec vos histoires d'observation, mais tout de même, hein, au bout d'un moment, arbeite, quoi. Hein, on sent que, bon, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Et puis la question, quelle place du numérique ? Réponse. On est là dans l'utilisable. C'est-à-dire, on est, je crois, dans le principe d'efficacité. Pour que ça soit efficace, il faut que ça soit opérationnel. Pour que ça soit opérationnel, il faut que je puisse savoir quand, avec qui, comment. Et on voit bien là revenir hein, votre répertoire cognitif professionnel. Voilà. Et ça rejoint l'article de Van Leyen dont j'ai parlé hier et Crahé. C'est-à-dire quand on interroge massivement les collègues sur leurs préoccupations centrales, celles qui arrivent immédiatement, c'est les opérations de planification, d'organisation. Hein, de questionnement. Par exemple, je prépare les questions, mais ça, c'est notre faute. Hein. Et j'emploie des sens ce vieux mot. Hein. C'est attention, il faut préparer les consignes, revenir, et les apprendre de par cœur, ne pas regarder ta fiche de prep. Quand tu, hein, vous voyez tout ce qu'on entend. Mais à aucun moment, ne se poser vraiment la question de l'effet de la consigne en lien avec la tâche et par rapport à l'activité attendue et son évaluation probable. Qu'est-ce qu'on peut répondre à tout ça ? La chose suivante. Pour moi, une situation d'observation étayée est une situation structurée. D'accord ? Il est hors de question de penser d'un côté l'observation et de l'autre côté la structuration. Si j'observe observation étayée, alors c'est qu'il y a une structure. D'accord ? L'observation, c'est pas, voilà, observation sauvage. Ce matin, en venant avec Sylvie, on a vu un étudiant qui était dans le jardin avec son pied de caméra, sa grosse caméra, un carnet, un stylo. Bon, alors sans doute allait-il faire de l'observation ? Il allait prendre des photographies du jardin parce que manifestement, ce jardin intéresse un certain nombre d'étudiants dans cette maison. Mais vous sentez bien à le voir, à la façon dont il circulait, que son observation elle était non seulement étayée, mais sans doute aussi derrière, il y avait tout un projet, tout un protocole de travail, de recherche. Bon. Donc, essayez de le penser en ces termes-là. Si on nous dit d'observer pour ensuite évaluer positivement, il va falloir quand même s'y prendre. Alors, autrement, ça veut dire que les observables relèvent de l'intelligence de la situation. Ils n'existent pas en soi. Alors certes, on pourra faire des listes d'observables, mais pour pouvoir bâtir la liste, encore faut-il voir ce qui, dans la situation, va mériter d'être un candidat à l'observation. D'accord ? Je me rappelle que on a fait plusieurs séances de formation avec Dominique Bucheteau, avec Jean-Charles Chabanne, chez moi, là, à Montpellier, sur voir les élèves. Voir les élèves. Premièrement, les voir dans la classe, les voir vivre avec nous, travailler avec nous. Ensuite, inscrire leurs propos dans la trame des propos de l'enseignant. D'accord ? J'attrape leurs formules, j'attrape leurs mots. Regardez comment Sylvie, elle a mémorisé des verbatim. Alors, vu le temps qu'elle y a passé, je comprends pourquoi. Mais voyez, elle est capable de vous dire, un tel, voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire que cette capacité à inscrire les mots, les propos, et donc derrière les procédures des enfants dans la trame d'une recherche ou dans la trame de ce que vous leur faites faire, à mon avis, c'est absolument essentiel. Et on est là. C'est-à-dire que l'observable, il dépend de cette intelligence de la situation en acte, et pas dans la fiche de PrEP. C'est-à-dire au moment où je déclenche la question, il se passe un certain nombre de choses, j'entends ou je n'entends pas, je vois ou je ne vois pas ce qui se passe. Réagir en vol. Alors c'est pour ça que j'ai cité Zettler, le bouquin de Zettler dessous. Donc l'action, je l'ai mis là, vous voyez, notre activité professionnelle, c'est une activité interprétative. Et elle est au cœur de l'action. C'est-à-dire, finalement, nous évaluons en permanence, parce que nous interprétons en permanence, en tout cas nous essayons d'interpréter ce qui se passe, sur des échelles de d'intensité et de durée qui sont extrêmement différentes. D'un moment, ça peut être une réplique, ça peut être du temps plus ou moins long. Et donc, il faut sans doute modifier, ou comme je le dis souvent, requalifier, nos habitudes interprétatives. Qu'est-ce que je prélève dans ce moment de situation que j'ai proposé aux élèves, qui soit suffisamment pertinent pour après en faire de l'évaluation? Alors, ça m'intéresse. L'exemple que j'ai donné sur vendredi 12 avril, à 14h30, nous allons visiter le musée archéologique de Lattes. Qu'est-ce qui pousse l'enseignante à augmenter, à demander à ses élèves d'augmenter, question après question, le volume de la phrase à produire, alors même qu'elle sait très bien que dans le temps de l'atelier d'écriture, ils ne pourront pas venir à bout de la phrase. D'accord ? Bon. Mais il s'agit pour elle d'aller jusqu'au bout d'une conception de la production d'écrit qui n'est pas complètement inscrite dans la diapo que tu nous as montrée, c'est-à-dire qui prend en compte le destinataire, qui se positionne vraiment dans un acte de communication, autrement dit que les fonctions de l'écrit s'ajoutent à l'acte d'écriture et s'ajoutent aux compétences liées à la production elle-même. D'accord ? Donc on peut effectivement dire, c'est les travaux de Reuter qui sont les travaux fondateurs didactiques de l'écriture. Bon, les tensions qui président à l'acte d'écriture sont extrêmement nombreuses. Mais pour autant, il ne faut pas refuser cette complexité. C'est le petit danger de la fameuse formule « essai d'écriture de mots ». On s'essaie certes à écrire des mots, mais on peut très bien aussi les mettre en contexte dans des phrases qui seront partiellement écrite par un élève, par plusieurs élèves, et puis complétée, achevée par l'enseignante elle-même. Je me mets du côté de notre recherche lire-écrire au CP pour voir ce que peuvent être aussi des observables, alors de chercheurs un peu surplombants. Voilà le tableau sur lequel nous sommes venus buter. Ce tableau, nous l'avions pour observer les séquences donc proposées tout au long de la journée pendant 3 semaines par les enseignants de CP. D'accord ? Bon. C'est toi qui as le pointeur ? Bon. Premièrement, on s'est vite rendu compte qu'il était quasiment impossible de renseigner le tableau en direct. D'accord ? Donc, juste avant, c'est-à-dire renseigner ce tableau, voyez sa complexité, en direct, c'était impossible. C'est-à-dire s'intéresser un peu à ce qui se passait, alors qu'on était là uniquement que pour filmer, ça m'a été par exemple impossible. Impossible de me détacher complètement de l'intérêt qu'il y avait à voir vivre une classe pour se contenter d'être une sorte de robot encodeur. Donc résultat, ça se passait le soir, on reprend, on discute avec la conseillère pédagogique pour dire, bon, est-ce que tu as bien vu ce qu'on a vu? Ok, allez, on y va en code. Quelques indications. En couleur, là, c'est facile à voir, noter le début de la tâche pour évaluer le budgétant. Vous voyez, on pourrait dire, et ça a été le candidat fort que nous a proposé Roland Guagou, on avait des doutes sur la pertinence de ce candidat, et en même temps, il la faut. Pour pouvoir dire, par exemple, qu'il y a des maîtres de CP qui vont consacrer 150 minutes au lire-écrire pendant la semaine, quand d'autres sont à pratiquement 4 ou 5 heures. D'accord ? C'est-à-dire des écarts considérables. Mais ensuite, il fallait nommer la tâche, la coder parce qu'il y avait un système de codage, travailler sur l'explicite. Alors, EP, ça veut dire explicite en pourquoi, EC, explicite en comment, et dessous, explicite slalom géant et slalom spécial. Hein, pourquoi et en comment. D'accord ? Bon, là, je vous dis problème, hein, parce que au moment où on entend l'enseignant dire ah, c'est comme, alors qui peut me dire quand c'est que nous avons ? Savoir à toute vitesse dire est-ce qu'on est dans le pourquoi, dans le comment, dans un comment pourquoi, c'était pas gagné. Ensuite, donc les supports, absence de support ou toutes les déclinaisons, le tableau, le TBI, la fiche, l'exercice, le cahier. Les groupements, grand groupe, classe entière, petit groupe, autre groupe, hein, je vais vite. Les types d'écrits, on bosse sur quoi ? Une affiche, est-ce qu'on est dans... Je me rappelle plus de certaines... Voilà, la liste, la recette... Hein. Après, la différenciation, le niveau de différenciation. Est-ce qu'il y a de la différenciation avec de l'aide? Est-ce qu'il y a de la différenciation parce qu'il y a une autre tâche? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe? Puis, la tâche 2, les élèves sans le maître ou éventuellement après un autre maître. D'accord? Et puis, enfin, il y avait la colonne bout commentaire. C'est-à-dire, en gros, hein, c'est comme le groupe 3 des verbes en français. C'est la Je dis presque là, j'ai failli dire la poubelle, je ne peux pas les classer dans le 1 et le 2, donc voilà, tout ce qu'on n'était pas en mesure de coder, tout ce qu'il fallait renseigner pour être sûr d'avoir codé ce qu'il fallait coder, on le présentait comme remarque. Voilà des observables. Comme il l'a dit, voilà, en gros, voilà qu'on joue, c'est-à-dire quand il fallait coder les tâches d'écriture, on allait de E1 à E9. Donc on part de tâches que vous connaissez bien, calligraphier, donc calligraphier des lettres, calligraphier des syllabes, calligraphier des mots. Copier avec modèle, donc lettre, syllabe, mot, on monte d'un cran en phrase, on monte d'un cran en texte. Je rappelle, CP. Copier après disparition du modèle, en copie différée, écrire sous la dictée, le maître décide des unités, produire en combinant des unités linguistiques déjà imprimées. Donc, vous pouvez très bien vous emparer de ce document, hein, qui sera après accessible, pour dire finalement, je suis en grande section. Quelles sont les tâches d'écriture que je peux déjà gérer, que je peux croiser, que je peux articuler avec d'autres propositions. Enfin, on arrive donc aussi à se produire en dictat autrui, bien. On arrive après sur les trois dernières, et là, il y avait vraiment le problème. E7, produire en encodant soi-même. C'est-à-dire vraiment, on est dans une situation de production d'écrit autonome. D'accord ? Et enfin, les deux dernières, qui sont des tâches que, finalement, à mon avis, ne participent pas uniquement de l'écriture, qui étaient des tâches dont E8, définir, planifier, organiser la tâche, on pourrait enlever l'écriture. Hein. Mais bon, là, nous l'avions retenu comme ça. Et enfin, revenir sur l'écrit produit. Bon, en sachant que aucune de ces tâches, prises toutes seules, ne permet d'expliquer les performances des élèves. D'accord ? On voit bien en bout de piste... que ce qui va compter, c'est les configurations de tâches. C'est-à-dire la façon dont, par exemple, un enseignant va gérer E7, E8 et E9, et plus exactement E8 d'abord, on va définir et planifier ce qu'on veut écrire, puis E7, on va produire, et enfin E9, on va revenir sur l'écrit produit. D'accord ? Là, on a une configuration de tâches qui vaut comme démarche. Je planifie, je donne à produire, et ensuite, on voit ce qu'on a fait, et on est bien dans une logique, là, pour le coup, non pas d'écriture spontanée, mais bien d'écriture accompagnée avec un processus, que je peux après intégrer ou pas, plus ou moins, à un projet du type, tiens, et si on revenait sur l'histoire de notre cher monstre ou de Moussa, et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on leur propose d'écrire? Et qu'est-ce que ça nous dirait sur la compréhension de l'album? Que leur façon d'écrire ou de le penser pour de l'écrit, et plus pour de l'oral. Les résultats, celle-là, je vais vite, pourquoi il m'a fait ça. Voilà, je vous montre ça parce que par rapport à ce matin, ça me paraît intéressant de faire le lien entre ce qui relève de la compréhension et ce qui relève de la production. Voilà les quatre vignettes qu'ont eu les enfants à la fin de CP, donc en juin, et à partir de laquelle ils devaient produire un récit autonome. Lorsque, dans le groupe de travail, un IUN était parmi nous, alors il ne s'agit pas de stigmatiser, sauf qu'il se trouve que c'est lui qui a dit « Mais attendez, mais dans le programme de CP, on ne demande pas à un enfant d'écrire un texte comme ça, de manière autonome. Bon. » Et notre idée, notre hypothèse, c'était que c'était possible et qu'il pouvait le faire. Bon, on y va, hein, c'est ça, hein, aussi, chercher. Ben, vous voyez la situation, une chatte, des petits endormis, un petit chat qui part à l'aventure. Il tombe. Escalier, trottoir, on peut discuter, on peut ouvrir, bien. Il pleure, il miaule, la maman l'entend, elle est réveillée, et hop, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que là, on voit bien, et je vous montre ça par rapport à la question de ce matin soulevée par Sylvie de la relation texte-image et des compétences ou des blocages que peuvent entraîner cette relation. Vous voyez bien qu'il y a une sorte d'ellipse narrative, mais filmique, qui consiste à déplacer la caméra, d'accord, on n'est plus au même endroit, et puis surtout, il y a une image absente. Elle est descendue, elle a attrapé le petit chat, elle est en train de remonter, et elle revient avec les frères et sœurs. D'accord ? Ouais, donc, entre l'image 3 et l'image 4, on n'est pas dans l'évidence de la construction, vous voyez, d'une chronologie facilitée. Hein, c'est à ce moment-là qu'on va voir s'il y a des élèves qui sont capables de comprendre ce qui s'est passé et de remplir un peu l'espace. Hein. C'est les théories de l'image. Hein. Depuis l'histoire, j'allais dire, c'est du Eisenstein, hein, on est d'accord. C'est-à-dire c'est l'histoire même du cinéma, ou en tout cas de la mise en succession des images, qui est engagée. Il y avait 6 analyseurs. La longueur du texte produit, ce matin, la question a été posée, est-ce que le nombre de mots est pertinent ? D'accord ? Et nous, on parlait de longueur de texte en termes de nombre de lettres tracées. Vous voyez, on est très modeste. L'idée, c'est que l'enfant a produit de la matière écrite, de la matière graphique. Ce sont des lettres, d'accord ? Ensuite, la segmentation, on en a parlé hier, la lisibilité, je peux lire à haute voix, sans effort, les séparateurs d'idées, la quantité d'informations et les traces de narration. Quand Sylvie nous a montré le verbatim du petit gamin qui était vraiment en difficulté sur son corpus, là on voit bien qu'il coinçait. On est à l'oral, mais on retrouve les problèmes. C'est-à-dire des difficultés de segmentation qui se traduisaient là par de la surreprise anaphorique. La souris, la souris, la souris, il, elle, avec des confusions, au bout d'un moment, on est perdu. La quantité d'informations, elle baisse. D'accord ? L'enfant n'arrive pas à gérer, à stocker. Donc vous voyez, ce qu'on peut regarder du point de vue de la compréhension, on voit bien qu'en situation de production d'écrit, on peut aussi valider un certain nombre d'habiletés de compréhension lorsqu'on est du côté de la production, et pas de la restitution pour de la compréhension. Mais bien sûr, c'est la même chose, parce qu'il s'agit pour l'enfant, évidemment, de comprendre. Personnellement, parce qu'on s'est bien bagarré, hein, vous pensez que ça va pas de soi, hein, c'est des heures et des heures de discussion, par exemple, voyez, je considérais pour ma part que je n'attendais pas nécessairement un titre. Après tout, l'enfant a les 4 images, est-ce qu'il est censé mettre un titre ? Bon, par contre, j'étais effectivement plus sensible à des formules d'ouverture ou de fermeture. D'accord ? Et donc, on peut se dire, là, de quoi a besoin l'école maternelle par rapport à ces indicateurs, à ces analyseurs, à ces observables, que je puisse après exploiter, explorer, à partir d'une lecture d'album, ou à partir d'une activité scientifique, historique, là-dessus, il faut sans doute quitter le champ de la littérature. Petit exemple et petite évaluation, vous voyez, hein, c'est l'histoire d'un chat qui tombe sur l'escalier. Le chat a mal, la maman le met sur le lit, et ils dorment tous, d'accord ? Et frères, ou ses frères, parce qu'on peut discuter, aussi, ils dorment. Et le petit chat et la chatte a revu tout le monde. D'accord ? Donc voilà le type de production qu'on a eu. Et vous le savez très bien, si on applique strictement notre système de codage, eh bien l'enfant qui fait cette production, il a 4 sur 4. D'accord ? Bon, alors ça relativise bien sûr à la fois le protocole de recherche, ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à la norme, hein, vous voyez, parce que immédiatement vous pouvez réagir en disant, oui, bon, est-ce que ce texte est acceptable ? Mais n'oubliez pas, fin de CP. C'est pas mal quand même, hein ? On est d'accord. Et ce sont des textes, on a regardé avec Jacques Crinon, bon, on est dans la moyenne des textes proposés. Effectivement, il y a bien moins bien, et en même temps, on a quelques textes qui sont impressionnants. Donc du coup, hein, si je sors là maintenant de la recherche, finalement, cette notion de lecture, écriture, compréhension, finalement, on pourrait les souder de plus en plus. On est dans le pour de vrai. Qu'est-ce que ça signifie? Que les apprentissages et les stratégies, celles de l'enseignant, dépendent des situations de production proposées. Et l'idée, et on l'entend depuis deux jours, que ce sont les situations d'écriture ou de compréhension complexes qui ont le plus de chances d'améliorer les résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faille proposer et des gammes, comme on l'a dit ce matin, et des situations de compréhension plus faciles ou un peu plus systématiques, mais que c'est dans la complexité de la situation qu'on verra si les élèves construisent des hypothèses sur le fonctionnement de l'écrit narratif ou de notre forme d'écrit, et ensuite sont capables vraiment, tout seuls, en situation autonome, de lever de l'implicite ou de se débrouiller avec un problème d'encodage. C'est difficile à accepter ça. Je comprends bien qu'on se dise, ah oui, mais tout de même, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à, entre guillemets, corriger, qu'on va être un peu dans la panade. La réponse, c'est peut-être de dire, on va le voir, c'est de dire, il va falloir être très sélectif sur ce qu'on va reprendre. Dans la logique de Dominique sur l'écriture, par exemple, le premier G, on peut considérer que le premier G, eh bien, on ne le reprend pas. Il n'est pas, entre guillemets, corrigé. Il est révisé. Je l'ai signalé hier, révisé, corrigé, réécrire. Il est révisé au sens, est-ce que cet écrit correspondait à ce qu'on s'était dit qu'on allait écrire? Oui. Bon, ok. Mais on va maintenant écrire autre chose. D'accord? Ou alors, on va sélectionner un ou deux points précis et travailler ces un ou deux points précis. Quelle que soit l'unité linguistique considérée. J'arrive sur les questions de formation. J'ai bien aimé cette phrase. La posture d'observation modifie l'organisation des apprentissages. Je vais vous redonner la définition du mot posture, en tout cas celle que nous utilisons, mais la formule est intéressante. Dans un module de formation, les enseignants sont très loin de tout ça. Et c'est vrai. Il faut l'accepter. D'accord ? Et parfois, ils ne le sont pas. Et parfois, ils sont, et Sylvie l'a bien dit, au-delà. C'est-à-dire, ils sont déjà passés par là, ils sont un peu plus loin, et quand on leur donne les bonnes billes, ça va très très vite. Par quoi on commence? Vous voyez? Bref, comment faire pour rester dans la ZPD des enseignants? Bon, peut-être que déjà, il faut un petit peu les secouer parfois aussi, flexibilité. Comment accompagner les enseignants dans le changement de leur pratique? Je ne sais pas répondre. Ça, c'est une vraie question. Éternelle question de, si ce n'est les embarquer, et j'emploie le verbe trivialement, dans la recherche, dans l'action. D'accord? C'est pas de la recherche-action au service du chercheur, mais c'est vous qui décidez de faire des choses, et quelqu'un vient vous aider, discuter avec vous. Le simple fait d'être là, ça modifie ne serait-ce que les tours de parole. Je m'en rends compte avec mes collègues, là, le soir, à 17h, ils sont fatigués, épuisés, donc pendant une demi-heure, on dit n'importe quoi, et puis tout d'un coup, il y en a un qui démarre. Et on y est à 19h. C'est ça, souvent, ce qui se passe. D'accord? On commence par tourner un peu, puis hop, le sujet arrive, et là, on l'attrape. Et... Ah oui, là, je me rends compte, ça y est, toute ma classe, il s'autorise à écrire. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu mets dans s'autoriser à écrire? Alors je les vois, ils viennent, ils me demandent des feuilles, et on note tous les petits points qui permettent de pointer ces déplacements dans l'apprentissage de l'écriture par les enfants. Pour répondre un tout petit peu, je reprends les points que j'avais donnés dans ma conclusion, quand j'ai parlé d'accompagnement au plus près. Seul l'accompagnement au plus près, au sens à côté, les fesses collées à la chaise, a dit Sylvie, on est d'accord, c'est bien ça l'idée, Donc ça veut dire que les autres font tout autre chose. On est au plus près. La formule est moins... Voilà. Sur les compromis opératoires, on est sur des compromis professionnels didactisés. D'accord? C'est ça qui permet de parler de lâcher prise. Le lâcher prise n'est en aucune façon quelque chose qui relèverait de je les laisse faire. D'accord? Le lâcher prise, c'est en fait c'est une distance et une moindre emprise sur les élèves. C'est ça, c'est-à-dire que le niveau de sollicitation ou d'imposition. Hein, il est le moins important possible. Je vous regarde. Je vous regarde. Je suis à côté de vous. C'est bien de vous voir travailler. Je suis contente de voir que vous essayez entre vous. Vous voyez, quitte à la ruse pédagogique peut enclencher ça. Voilà. Il y a une espèce de pédagogie, démagogie là qui peut être intéressante parce que non, je viens uniquement voir parce que ça me fait plaisir de vous voir vous bagarrer avec l'écriture. C'est tellement dur, mais on va y arriver. Vous voyez, chacun y va de sa formule. L'écriture collective au service de l'écriture singulière et la diversification. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Je vais vous remontrer le fameux tableau, le fameux schéma que nous avons modélisé à Montpellier. Je mets au centre les deux objets qui ont été traités sur ces deux journées, la compréhension et l'écriture. D'accord ?
C'est toujours le savoir qui est au centre.
Voilà. Alors, un maître formateur nous a dit un jour, le problème, il y a deux problèmes dans votre modèle. Le premier, c'est l'illusion de la transparence et de l'exploitation. C'est-à-dire que, comme disait Jean-Charles Chabanne, tout est geste, en ouvrant les mêmes façon zen. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça. Donc, illusion de la transparence. On a le modèle, on peut tout expliquer. Deuxième problème, le caractère centrifuge du modèle. C'est-à-dire, vous allez voir, on va s'occuper de ce qui va apparaître maintenant, au point d'en oublier les deux objets qui sont au centre. Alors que quand nous l'avons pensé, il est d'abord et avant tout didactique, ce modèle. C'est-à-dire, il sert à comprendre mieux toutes les opérations didactiques qu'on a envie de voir opérer dans la classe. Quatre grandes préoccupations. Il faut une atmosphère particulière pour qu'une situation fonctionne, pour qu'on puisse encaisser les durées relatives ou pas de la situation, le nombre de séances. Qu'est-ce que ça veut dire ? On doit créer et maintenir des espaces dialogiques, des espaces de travail. Je vais le dire autrement, il faut que les enfants puissent vivre ensemble avec l'enseignant, travailler, réfléchir, penser, créer, d'accord, dans une relation qui, parce qu'on est en même temps très science du langage, fait qu'on raisonne opération langagière. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, et vous voyez que nous la mettons en deuxième place et pas en première place, tout ce qui relève effectivement des contraintes spatio-temporelles. Maintenant, on ajoute le rythme. Hein, c'est pas qu'une affaire de temps et d'espace. C'est une affaire de rythme. Dans la recherche lire-écrire au CP, un de nos collègues travaille maintenant sur le tempo. Par exemple, le tempo de l'apparition des sons et des relations graphophonaux dans la semaine. Il n'y a pas de bon tempo a priori. C'est pas un phonème semaine ou deux phonèmes semaine ou X phonèmes. Voilà, c'est en fonction de la classe, en fonction des situations, il y a sans doute un tempo à envisager. Du coup, du côté graphophono en grande section, qu'est-ce que ça serait que le bon tempo de découverte de la relation graphophono? Troisième préoccupation, toutes les procédures d'aide et toutes les fonctions de tutelle. C'est là qu'il y a de l'accompagnement, c'est, hein, le lâcher-prise est une fonction de tutelle. On est d'accord. C'est pas un renoncement. C'est pas un je m'en vais. C'est bien, je vous aide parce que je n'interviens pas. Parce que c'est à vous de faire le boulot. Et de voir un peu ce que vous êtes capable de faire à 3 ou à 4. Mais ça rejoint tout à fait ce que dit Roland Guagou lorsqu'il dit, voilà, les situations pour découvrir un mot. Soit on le connaît parce qu'on l'a déjà photographié quelque part, on sait où il est. J'ai pas besoin du maître. Deuxième situation, on est capable de le découper, on est capable de voir comment il se met en place, on a la première syllabe, allez, on y va. Troisième situation, on a besoin d'un petit coup de main. D'accord ? Ah, attention, vous oubliez que, et si vous alliez voir du côté de... Quatrième situation, c'est trop difficile, le maître donne. D'accord ? Et c'est ce que j'appelle l'étayage, dans ce sens-là. Et enfin, le tricot. C'est-à-dire que, pour donner du sens à la situation, au savoir visé, au contenu, l'écriture... Elle s'inscrit. Alors moi, ce qui me plaît, c'est que la production d'écrit en elle-même, c'est du tissage. Après tout, le mot texte appartient à la famille de textile, donc de tissage. S'il y a bien une activité qui est à elle-même son propre tissage, c'est bien l'écriture, qui m'oblige à récupérer tout, du phono, du graphique, de l'orthographe, du textuel, du communicationnel, et même, j'allais dire, du physique, de l'organique, parce que c'est dur. Il faut se mettre à l'écrire, il faut y rester, ça prend du temps, c'est ennuyeux. Puis quand on gomme, on salit tout, maîtresse, bon, voilà. Là, on est d'accord, hein, on fait fonctionner les flèches dans les deux sens. Donc l'idée ensuite, c'est de regarder vos situations et de vous dire, voilà, je leur propose ce matin cette situation. Quelle est l'atmosphère que je veux installer? Avec quel pilotage? Avec quelle procédure d'aide? Et quel sens je vais donner? On écrit un seul mot. Ce matin, on va écrire, voilà, un seul mot. Parce que j'ai besoin, avec vous, de découvrir un nouveau son. D'accord? Et donc, je crée, en fait, mon... Ce sont des préoccupations. Ces préoccupations, elles vont donner lieu à des gestes. Hein. Ne confondez pas gestes, préoccupations, postures. Il y a une logique là-dedans. Le point de départ, c'est vraiment les préoccupations de l'enseignant. Ces préoccupations, elles se traduisent concrètement par un certain nombre de postures. Et les postures vont s'actualiser dans des façons de faire. Regardez ce que ça donne. Au milieu, si je mets les tâches d'écriture, d'un côté, j'ai les fameuses préoccupations. D'accord ? Au milieu, j'ai les tâches proposées. Et de l'autre côté, j'ai les postures. Qu'est-ce que c'est qu'une posture ? La définition que donne Dominique en 2005, elle a bougé un peu, mais elle reste encore pour l'essentiel importante, ce sont voilà, des schèmes de réponse disponibles, c'est-à-dire un répertoire qui est intériorisé, qui est le produit d'une expérience aussi, hein, à la fois cognitif, langagier, pas que cognitif et langagier d'ailleurs aussi, hein, parce que c'est physique, ça se traduit autrement. Hein, mais en tout cas, c'est donc préconstruit dans l'histoire et l'expérience des sujets, des manières d'être, qui sont aussi des manières de faire et qui vont s'actualiser en contexte. Vous voyez, ce n'est pas un mot qu'on peut plaquer en disant « Ah voilà, là il y a une posture de contrôle ». Ça va beaucoup trop vite de le dire comme ça. Il faut pouvoir retrouver dans un verbatim les éléments qui me disent qu'effectivement il y a une volonté de contrôle. Deuxièmement, ces postures sont nécessaires. D'accord ? Elles ne sont pas hiérarchisées. Il n'y aurait pas de bonnes ou de mauvaises postures. Un enseignant est capable de, et doit même circuler sur ces différentes postures. Il y a fort à parier qu'en début de séance, une posture d'orchestration, de contrôle, au sens « je mets en place les choses », est indispensable. Il ne faut pas qu'elle prenne la place ensuite à tout ce qui va être des postures d'accompagnement. Et je tiens aussi à préciser, parce qu'on l'a beaucoup dit sur ces deux jours, la posture d'enseignement, le moment où je prends la responsabilité, je me montre en tant que maître, et je dis, voilà, les choses sont comme ça, pas autrement. D'accord ? À ce qui n'exclut pas d'avoir accompagné, d'avoir lâché prise, d'avoir contrôlé. Donc attention, quand vous vous emparez de ces modèles, parce que ça marche très bien dans les mémoires, hein, mémoire M2, ils se régalent, parce qu'il y a une économie de moyens avec un maximum d'efficacité. D'accord ? Parce qu'ils disent, voilà le profil de l'enseignant, il insiste sur le pilotage, il est très dans l'étayage. Bon, hein, économie de moyens, beaucoup d'efficacité. Et en même temps, moi, je leur dis, attention, illusion, hein, de la transparence qu'offre ce modèle. Hein, il faut vraiment creuser, voire même ajouter des postures, voire essayer de trouver s'il y a d'autres préoccupations. Je finis sur cette question des profils, puisque c'est notre problème pour la recherche CP. Puisqu'on s'est rendu compte qu'aucun des facteurs séparés ne permettait d'expliquer l'efficacité des progrès réalisés, enfin des progrès, des performances réalisées, du déplacement des élèves entre le début et la fin de l'année, l'idée que nous avons, c'est qu'il y a des configurations de tâches. Et que ces configurations de tâches, je fais faire à mes élèves un certain nombre de choses. D'accord ? Tout au long de la journée. Et c'est dans la configuration de ces tâches que je vais pouvoir décider de l'efficacité. En tout cas, c'est l'hypothèse actuelle. Donc, c'est une question de dosage et pas de centration, de fixation. D'accord ? Et donc, la période du tout phonologique, voilà. On a compris que, quelque part, on s'était planté. D'accord ? Et que donc, l'avertissement aux Oulias du type « attention », c'est de la graphophono qu'il faut mettre en place beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite, elle prend tout son sens maintenant. D'accord ? On les retrouve. De même que déjà, Fischelkopf et tous, d'ailleurs. Mais voyez, c'est pour ça qu'il faut y revenir, même si ça a 30 ans. Parce qu'on n'entend pas forcément ce qu'il fallait entendre. Ou quand on relit autrement. Donc, ces phénomènes, alors j'en ai mis une série, l'inventaire n'est pas complet, mais voyez, ceux qui sont plutôt du côté du produit, et donc de la norme, ceux qui sont du côté du processus, et qui donc n'accorderont pas à la norme la même importance, puisque ce qu'on veut voir, c'est la progression de l'enfant, comment il balise son activité de passage à l'écriture, les situations, et pas un programme définissant un certain nombre d'objets d'enseignement. C'est bien des situations offertes d'écriture, des situations avec sollicitation forte, avec sollicitation moyenne, avec sollicitation faible. On pourrait là aussi le décliner. La question de l'analyse des productions. Vous voyez, je dis analyse des productions et pas correction. D'accord ? Je prends en compte ce que l'enfant a fait. Je pose le stylo rouge. Je suis ailleurs. D'accord ? Flexibilité. La dynamique interactionnelle. Pour écrire, il faut parler. Beaucoup. Alors, pas en même temps, d'accord ? Avant, planification. Après, on revient sur l'écrit, ou quand l'enfant s'arrête, quand il y a les moments de pause, j'en ai parlé hier, et on rediscute et on dynamise par l'interaction le rapport à l'écriture. Comment pourrait-on faire pour savoir comment ça s'écrit tellement ? Ah, on pourrait aller chercher du côté de. Ah bien, allons-y, ça. Le principe de Figelkov, on installe des dictionnaires, on a des imagiers, et puis un matin on dit « Ah non, aujourd'hui, allez, on ne les prend pas. Est-ce qu'on est capable de ne prendre aucun outil ? Comment on pourrait faire si on n'avait pas des outils ?» Ce qui d'ailleurs est une façon de les inciter à aller chercher après les outils. Les pratiques effectives et donc l'analyse de l'activité. Mettez une caméra dans votre atelier, là, au moment où vous travaillez avec eux, prenez le petit film. Envoyez le verbatim à Sylvie après, parce qu'elle en a besoin, non, je rigole à peine. Mais voyez comment on fait. Et peut-être même, le lendemain, on va regarder un petit film. Hier, nous avons travaillé ensemble, et le groupe-là a écrit le mot « couleuvre ». On va regarder comment ils ont fait. D'accord ? C'est-à-dire que la vidéo-formation peut devenir, je crois aussi, ça c'est une piste qui m'intéresse, de la vidéo-apprentissage. C'est-à-dire les élèves vont regarder. Alors on va rigoler, 2-3 minutes, après tous les grands le font bien. Les premières fois qu'on se voit, d'ailleurs, on ne se supporte pas. Ça, c'est une autre affaire. Mais ensuite, voilà comment ça s'est passé. Et enfin, la question du sujet scripteur, parce que la formule existe du côté du sujet lecteur, parce que j'ai des collègues à Montpellier qui sont très attachés à cette dimension, le sujet lecteur en construction. Ben, moi, j'aurais tendance à dire sujet scripteur en construction, et on n'attend pas. De même qu'on a un sujet compreneur qui, parce qu'il y a des moments dédiés à la compréhension, va pouvoir tisser d'autres liens avec les moments d'écriture et les moments de lecture. Conclusion, j'ai repris un article de Sylvie et de Roland. Je pense que c'était à propos de lecteurs électriques en 2007, quand vous aviez dans le repère 35. Peu importe, l'idée c'est quand ils finissent... Alors, Patrick a parlé de sentiment de compétence pour le formateur. Mais Roland et Sylvie avaient terminé sur la possibilité de proposer aux élèves, confrontés aux tâches de compréhension, un indice de confiance. Alors il y avait un tout petit baromètre là, avec quatre figures. Voilà, j'ai pas du tout confiance, je sais rien, je comprends pas, je comprends tout petit peu, jusqu'à quatrième, je suis sûr d'avoir compris. Oui, et quelque part, je me suis dit, tiens, ça serait bien, parce que je le fais avec l'écriture, par exemple, je leur dis, voilà, on a écrit un mot, qui est sûr de l'avoir bien écrit, qui est sûr de l'avoir un peu écrit bien et pas trop bien, quand même, qui a peur de, ou qui ne sait pas l'écrire ou ne peut pas l'écrire. Ouais, leur donner à eux les clés d'une évaluation, alors là, pour le coup, positive, mais difficile, parce que c'est difficile d'oser s'évaluer. De pouvoir s'évaluer. Et alors, on peut négocier l'auto-évaluation par ce côté indice de confiance par rapport à la tâche. Ce qui est une autre façon, à mon avis, d'envisager le problème qui nous occupe là, depuis deux jours, que ce soit du côté de la compréhension, du côté de la production, ou finalement du côté de n'importe quelle autre tâche. Voilà ce que j'avais à vous proposer comme... Et pardon d'avoir dépassé, hein. Oui. comme synthèse. Merci à vous.